minutieusement informé, technologiquement outillé, conscientisé aux problématiques de son époque. Philippe-Vincent Foisy. Il expose tous les côtés des affaires publiques. Santé, économie, culture, politique. Peu importe les enjeux, il s'intéresse à tout. Philippe-Vincent Foisy. Cube Radio. Cube Radio.
Mardi 25 janvier, bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien ce matin, alors qu'il fait quand même encore un peu froid. Si vous venez de vous réveiller, sachez qu'il y a une petite couche de neige sur vos voitures ce matin sur la route. Moins 16 en ce moment, moins 22 avec le refroidissement éolien. Aujourd'hui, ça s'annonce plutôt beau quand même. Moins 10 avec possibilité d'averse de neige, mais sachez que la nuit qui s'en vient sera froide. Moins 23 demain, moins 18. Encore deux nuits froides nous attendent. Ce n'est pas le temps de ranger les habits de neige. Maude, bonjour.
Salut.
Alors aujourd'hui, on attend cette annonce à 14h de François Legault qui devrait commencer à parler de déconfinement dans le Journal de Montréal ce matin. On apprend qu'il sera question de restaurants, de sport chez les jeunes, là, mais qu'on va continuer de parler de prudence. Donc on pourrait permettre un rassemblement de 4 personnes ou les occupants de 2 résidences pour aller dans un restaurant. On parle aussi de la reprise des sports chez les jeunes. On parle d'une séquence plus que d'un calendrier avec des dates précises, là, donc d'avoir une meilleure idée de ça va se faire en quelques semaines, combien de semaines, où on s'en va avec tout ça. Ça va devoir être bien communiqué parce qu'il y a pas mal de grogne dans la population. D'ailleurs, hier, il y avait cette annonce du gouvernement sur la stratégie de la main tendue là, pour essayer d'aller faire vacciner, première dose, les 540 000 adultes non vaccinés. Finalement, ce qu'on a annoncé, c'est pas mal de ce qu'on avait déjà fait. Là, clinique éphémère, documentation, ligne téléphonique pour les gens qui ont des questions. Mais il y a des organismes communautaires qui disent « Ouais, on aurait pu fort probablement être mis davantage à contribution pour aller au-delà, aller vers cette clientèle-là, aller cogner à leur porte. » C'était aussi le début hier du passeport vaccinal dans les grandes surfaces. Y, ce matin, dans le journal, une bonne caricature en montrant certaines incohérences. Longue liste d'attente de gens qui veulent entrer dans un magasin grande surface. Il y a un anti-vaccin qui coupe la ligne, qui dit « Ben moi, j'ai le droit de rentrer. Je viens ici pour travailler. » Ouais, ça montre cette incohérence-là que les employés ne sont pas obligés d'être vaccinés. On avait aussi une annonce du ministère de l'Éducation, ministre de l'Éducation hier qui a parlé qu'est-ce qu'il allait faire pour aller recruter du personnel, l'importance de pallier à cette pénurie de main-d'œuvre. Il disait qu'il n'y a pas de bris de service en ce moment ou presque pas dans les écoles. En Ontario, c'est 16 écoles qui sont fermées, plus de 330 qui ont plus de 30% de taux d'absentéisme à cause de la COVID. Est-ce que c'est ce qui nous attend ici? On va voir, mais pour l'instant, ça semble bien aller. C'est assez comique d'avoir cette annonce-là hier sur le manque de main-d'œuvre et dans la presse ce matin de voir les joies de la bureaucratie avec cet article-là d'un prof qui a demandé un congé sabbatique il y a 5 ans. Là, il est obligé de le prendre, ne peut pas revenir en arrière. Le centre de services scolaires dit « Ben non, tu l'as demandé, voici, prends-le en ce moment. » Même si on comprend qu'on n'était pas en pandémie il y a 5 ans, que la pénurie n'était pas aussi grave. Toujours dans la presse, une histoire assez intéressante d'une greffe de poumon. On a 3 patients qui ont reçu au Québec une greffe de poumon. Et pourquoi on en parle? Parce que c'est 3 patients qui ont attrapé la COVID, qui ont eu des complications hyper graves et 3 patients qui n'étaient soit pas vaccinés ou soit pas adéquatement vaccinés. On nous dit que c'était pas des anti-vaccins, qu'il y a un protocole qui est en place pour prendre les décisions, qui a les capacités de survivre, de s'améliorer. Là, on écrit notamment qu'on ferait pas ça pour un grand fumeur qui a décidé qu'il n'arrêterait pas de fumer. Là, on n'utiliserait pas ses ressources, donc des organes très, très rares pour ces greffes-là. Mais en même temps, ça pose cette question, ce débat éthique sur est-ce que les non-vaccinés devraient être priorisés dans ce cas-là. Il y en a beaucoup qui disent on devrait traiter tout le monde de façon adéquate, mais il y a quand même dans le corps médical des gens qui sont vraiment à bout et pour qui on devrait même pas traiter les non-vaccinés. Alors ce débat-là continue de prendre de l'ampleur et on a appris dans les dernières minutes qu'à Londres, la police va enquêter sur des événements qui se sont passés au 10 Downing Street, la résidence du premier ministre britannique Boris Johnson. On parle de fêtes qui ont eu lieu au cours des 2 dernières années qui auraient été contraires aux mesures sanitaires. Et Maude, parle-moi du tramway ce matin. Le maire de Québec va faire le point aujourd'hui. On a un sondage. Est-ce que ça va bien pour le projet?
Moyen. Les échos dans la population sont pas les meilleurs. Ça a déjà été beaucoup mieux. Il y a un nouveau sondage Léger qui révèle qu'il y a une dégringolade de l'appui au projet de tramway. Donc, une personne sur deux, là, 52 % des approuvent le projet maintenant dans la capitale, selon le coup de sonde qui a été commandé par la Ville de Québec auprès de 500 répondants. Ça a été mené la semaine dernière. Il y a 43 % des répondants qui disent être peu ou pas du tout familiers avec le projet. Ça, c'est quand même étonnant parce qu'on en a beaucoup parlé dans les dernières années. Puis, la dernière campagne électorale, ça a été un des enjeux principaux. Donc, la pluie a jamais été aussi faible. Tu l'as dit, l'administration du maire Marchand va faire le point aujourd'hui, aussi mercredi avec la presse pour constater l'état d'avancement du projet. On estime que le défi de remettre ce projet-là sur les rails dans l'opinion publique n'est pas insurmontable. Et le journal a appris lundi soir aussi, je rappelle, que les dépassements de coûts pour le tramway tourneraient finalement autour de 500 millions de dollars plutôt que 600 millions.
Ouais. Et il y a le SPVM en ce moment qui est à la recherche de possibles victimes d'une famille d'accueil. Une histoire assez macabre, là.
Ouais, donc une ancienne famille d'accueil de Montréal-Est qui est accusée d'une série de crimes sexuels commis pendant plusieurs années sur une jeune fille que eux hébergeaient durant les années 80. Yvon Guernon, Liliane Liboiron et leur fille Linda Guernon ont comparu en décembre dernier, mais la police de Montréal croit que le couple et leur fille pourraient avoir fait d'autres victimes. Donc, il y a un appel qui a été lancé hier, à savoir si d'autres enfants auraient pu être victimes de leur sévice. Quiconque aurait été victime de cette famille-là ou aurait des informations à son sujet, on est invité à se rendre à un poste de quartier ou si à communiquer directement avec les enquêteurs de la section des agressions sexuelles. Donc, l'homme de 84 ans est accusé de grossière indécence. On reproche à sa conjointe des chefs de voies de fait d'agressions sexuelles, de contacts sexuels et leur fille aussi, qui est aujourd'hui âgée de 56 ans, est accusée d'agressions sexuelles, de grossière indécence et d'atteinte à la pudeur. Elle aurait aussi elle-même le profité de la jeune victime. Selon le SPVM, l'enfant elle avait été placé dans cette famille-là en 1980. Les agressions sexuelles auraient commencé dès son arrivée pour une période de 5 à 7 ans. Puis c'est pas la première fois qu'Yvon Guernon a été famille d'accueil avec son conjointe à la fin des années 60 jusqu'au milieu des années 80 là, et a fait face déjà à la justice pour des gestes similaires. Donc les trois accusés qui vont revenir au palais de justice le 14 février.
Merci Maude.
Les armes?
Oui, parle-moi des armes. Ben oui, excuse-moi, j'avais pas vu les armes. Parle-moi des armes. Ben en fait, je voulais que tu m'en parles, mais je l'avais pas vu. Parle-moi des armes, excuse-moi.
Ben oui, on est mêlés à matin, c'est correct. Parce que c'est un super bon dossier du journal ce matin. Donc, 2000 armes illégales qui seraient en circulation à Montréal. C'est ce que le bureau d'enquête a pu apprendre de sources bien informées du milieu, autant interlope que policiers. Notamment, on parlait à un trafiquant. Donc, le marché noir serait alimenté chaque mois par au moins deux nouvelles cargaisons en provenance des États-Unis. Et le prix de ces armes-là illégales varie en fonction de la catégorie, de ses particularités, de l'urgence aussi pour l'acheteur de l'avoir en sa possession. Donc, ça peut aller de 1 000 à 8 000 $. Et le journal dresse même le portrait de quelques-unes de ces armes-là. On a accès à des produits américains, israéliens, suédois, de la République tchèque.
Non, mais c'est fou de voir la quantité d'armes qui circulent, le type d'armes aussi. On n'est pas dans les petits fusils de chasse, là, bien loin de là.
Non, très loin de là, là. Ce sont de véritables machines à tuer, là, dans certains cas. La plupart des armes en vente à Montréal, par contre, ont été achetées en Pennsylvanie. Donc, c'est un État américain qui a quand même des lois assez permissives en matière d'armes à feu. Et c'est la pègre irlandaise qui chapeaute l'importation des armes à Montréal, à ce qu'on peut lire dans le journal. Les gangs de rue sont pas mal plus bas dans la chaîne. Donc, une fois en ville, les armes sont placées dans des caches avant d'être vendues au crime organisé, aux gangs de rue. Puis toujours selon les sources du bureau d'enquête, il y a une épicerie montréalaise qui servirait même de point de ravitaillement d'armes. Ah, donc, les vrais clients entrent, toi puis moi, là, on entre par la porte d'en avant, on s'en va s'acheter notre bouffe. Puis les autres entrent par une porte en arrière qui mène à l'entrepôt là, pour se procurer des armes qui sont, elles, cachées dans des caisses.
Mais ça, on sait ça. La police sait ça si les journalistes du journal le savent.
Oui, bien, eux ont parlé avec un trafiquant d'armes. Je ne sais pas si lui a dit ça aux policiers. Peut-être que oui ou peut-être que non. Peut-être que c'est des sources policières aussi qui ont dit ça. Là. Mais le trafiquant qui s'est confié aux journalistes raconte aussi là, comment ça se passe quand l'arme, elle est vendu au client, toutes les précautions, parce que tu donnes pas une arme qui est déjà chargée à ton client, parce qu'on s'entend que ça peut se revirer aussi contre toi. C'est assez fascinant, quand même, de lire ça dans le journal ce matin, des informations très troublantes.
Oui, puis on nous parle aussi de la watch des policiers de la SQ et qui ont pas mal de misère dans certaines réserves pour essayer de faire cette surveillance-là. Donc, merci Maude de m'avoir ramené à l'ordre et d'avoir parlé de cet important sujet. J'ai bu du café, tout va bien. L'émission peut commencer. Bonne journée.